Cyril, donc, du Bureau des acclimatations, ancien directeur des affaires culturelles aussi. Donc, tu as une expérience des collectivités de longue date. Et aujourd'hui, tu es plutôt à conseiller les acteurs sur la transformation aussi de leur structure sur les questions de transition. Je te laisse la parole.
Super, merci. Bonjour à tous. On m'a dit que ça faisait un peu stand-up ou one-man show, là. Je vous préviens tout de suite, je n'ai pas préparé que des blagues. Malheureusement, c'est moi qui ouvre la journée, qui vais poser un peu les enjeux. Et il n'y aura pas que des choses rigolotes dont je vais vous parler aujourd'hui. Juste pour me présenter rapidement, même si Gaël, tu as déjà dit deux mots, j'ai monté une structure qui s'appelle donc le Bureau des acclimatations, qui est une structure qui fait de l'accompagnement à la transition écologique spécifique dans le secteur culturel. On travaille aussi bien avec des opérateurs, des diffuseurs, des équipes artistiques, et moi plus particulièrement avec des collectivités, des établissements publics, puisqu'avant de monter cette structure, j'étais effectivement directeur des affaires culturelles, d'abord en ville et puis en département. Donc évidemment, j'ai un intérêt particulier sur les politiques publiques. Et c'est ça que j'avais envie de venir travailler sur ces enjeux de transition. Voilà, donc on a monté une structure avec Fanny Valenbois pour être dans une logique d'accompagnement, de sensibilisation, avec par exemple l'atelier qu'on va vous proposer cet après-midi autour de la fraise de la mobilité culturelle, des temps de formation comme celui que Florence a évoqué, et puis des temps d'accompagnement à la définition de projets, de plans d'action, de diagnostics, etc. Donc voilà, je vais avoir un petit temps de présentation des enjeux sur cette question de la transition écologique et de son articulation avec le secteur culturel. En trois temps, je vais avoir un petit temps de présentation des enjeux environnementaux en tant que tels, quelques rappels sur de quoi on parle, notamment sur la question du dérèglement climatique, puis la question des impacts du secteur culturel, à quel endroit ça se joue, quelles sont les priorités d'action, quels sont les leviers qui sont identifiés. Et je finirai sur la question des politiques publiques, puisque j'ai mené un travail de recherche, en tout cas de collecte d'informations auprès d'un certain nombre de collectivités qui ont commencé à intégrer ces enjeux environnementaux dans leurs politiques culturelles. Et donc voir ce qui est possible de faire, quels sont les leviers dont disposent les collectivités pour accompagner la transition du secteur culturel. Ah oui, j'ai une télécommande. Voilà. Alors, en trois mots, vous dire que concevoir la transition écologique du secteur culturel, tout secteur culturel confondu, c'est nécessaire, ça sera complexe, mais c'est tout à fait possible. Ça pourrait être le résumé de mon intervention. C'est nécessaire parce que, ça a déjà été cité, il y a un enjeu de responsabilité face à la crise environnementale dans laquelle on est, notamment celle du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique, mais pas que, la perte de biodiversité, j'y reviendrai. Et le secteur culturel ne peut pas s'exonérer d'une forme de responsabilité en tant qu'activité humaine qui produit des impacts et qui contribue au dérèglement climatique ou à la crise environnementale qu'on connaît. Donc c'est évidemment nécessaire de la part des acteurs culturels, de prendre part à cette responsabilité. C'est nécessaire aussi parce que cette crise environnementale vient déjà impacter le secteur culturel. On a cité, je crois, le cas des festivals là, en introduction, des festivals qui ont été annulés cet été à cause du réchauffement climatique, des intempéries qui sont venues aussi impacter de manière très forte un certain nombre de festivals. On connaît aujourd'hui une vraie problématique sur la crise énergétique. On parle de lieux pourtant structurants qui risquent de fermer leurs portes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc on voit bien que la crise environnementale est déjà dans le secteur culturel et qu'elle produit déjà des effets et des impacts. La deuxième raison sur laquelle il y a une nécessité à agir, c'est qu'il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une forme de crise sectorielle que connaît globalement le secteur culturel. Je renvoie à la crise ou à la problématique de la venue des publics, je renvoie à la question de la production, de la faiblesse des niveaux de diffusion des programmations artistiques, enfin, des propositions artistiques. Voilà, un certain nombre de difficultés que connaît le secteur culturel et qui sont en fait très, très liés ou qui peuvent, pour lesquels on peut apporter des réponses aussi par les leviers qu'on va activer sur les enjeux de transition écologique. Donc cette prise en compte de la transition écologique par le secteur culturel, elle est nécessaire. Elle est complexe parce que on ne va pas se mentir, on ne va pas parler que d'éco-cup, on ne va pas parler juste de changer des petits modes de production ou des manières de faire nos activités, on parle de changement structurel. Voilà, donc évidemment, lorsqu'on va parler de changement structurel, on va aller sur des enjeux qui vont ouvrir beaucoup plus de complexité. On parle de changer nos modèles de production, nos modèles de diffusion. On parle sans doute de changement juridique, de changement de modèle économique, voire de changement de valeur, j'y reviendrai. Donc évidemment, tous ces sujets-là vont ouvrir une grande complexité. Heureusement, c'est possible pour plusieurs raisons qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, on commence à savoir où il faut travailler. Depuis quelques années, maintenant, on a des chiffres. On a notamment le rapport du Shift Project décarbonant la culture qui est venu éclairer le secteur culturel sur ses impacts et sur les endroits où il avait des leviers d'action. Donc on commence à avoir des éléments. Et puis, on a un certain nombre d'acteurs qui ont déjà engagé des actions. Donc on a une expérience, on a des compétences qui se sont développées. On parlait des festivals. Les festivals et globalement les musiques actuelles sont sans doute les deux secteurs qui ont les premiers engagé des actions en faveur de la transition écologique. Donc on sait aujourd'hui où on doit agir et quels sont les leviers. Alors quelques rappels, comme je vous le disais, sur la question des enjeux environnementaux. Ce premier DIAC s'appelle, c'est ce qui est présenté comme étant les limites planétaires. Donc c'est un certain nombre de scientifiques qui se sont réunis pour déterminer quelles étaient les conditions qui permettaient la vie sur Terre. Et ils ont déterminé 9 conditions qui sont nécessaires à l'apparition et au maintien de la vie sur la planète. Ils ont pour chacune de ces conditions mis des niveaux qu'il fallait respecter pour maintenir un équilibre, pour maintenir une interaction favorable de l'ensemble de ces éléments-là. Et vous voyez que pour un certain nombre d'entre eux, on est déjà largement dans le rouge, c'est-à-dire qu'on a dépassé les limites de ce que la Terre est en capacité d'accepter pour maintenir l'habitabilité. Donc c'est notamment la question des pollutions, c'est la question de l'érosion de la biodiversité, c'est la question évidemment aussi du réchauffement climatique qui se trouve un petit peu en bas à droite là, du schéma. Et vous voyez que ce n'est pas forcément la problématique sur laquelle les scientifiques sont aujourd'hui les plus alarmistes. En tout cas, ce n'est pas celle sur laquelle les limites ont été les plus largement franchies. Pourtant, c'est une de celles dont on parle le plus, et c'est sans doute celle dont je vais parler le plus aujourd'hui aussi, parce qu'elle structure beaucoup des autres limites planétaires. Elle est liée notamment, elle impacte notamment l'érosion de la biodiversité, elle impacte le cycle de l'eau, par exemple, l'acidification des océans. Et elle a aussi une vertu, on va dire, c'est qu'elle est mesurable. Et donc, c'est une des limites planétaires dont on peut se rendre compte, dont on peut identifier clairement quelles sont les variables. Donc, toujours penser que, on va parler beaucoup de dérèglement climatique, réchauffement climatique, toujours penser que cet enjeu du réchauffement climatique est à replacer dans cette question des limites planétaires et donc des autres enjeux environnementaux qui sont également nécessaires de traiter. La pollution, la perte de la biodiversité, par exemple. L'anthropocène, vous avez sans doute entendu parler de ce mot, c'est l'ère actuelle dans laquelle on vit, où l'homme est devenu la force structurante d'agissement sur ses limites planétaires. Aujourd'hui, l'homme et son activité, évidemment, ou ses activités, c'est la principale force de changement des conditions de vie sur Terre. Devant les forces géophysiques. Donc on parle de limites planétaires. Moi je rappelle quand même qu'on ne parle pas en fait de risque pour la planète, on parle de risque pour la vie sur Terre. C'est une question d'habitabilité, c'est une question de maintien des conditions de vie sur la Terre, pour nous, êtres humains, et pour l'ensemble des êtres vivants. voilà de quoi on parle. Quand on parle d'anthropocène, on parle d'une ère où l'homme, par son activité, est venu mettre un dérèglement tel qu'il se met en danger, ainsi que l'ensemble des êtres vivants sur la planète. Voilà, c'était la première blague du jour. Dans mon One-Man Show, en principe, ça marche très bien. Donc, les limites planétaires. Je vais rentrer un peu dans le détail sur le réchauffement climatique, et je parle plus volontairement de dérèglement climatique, en revenant notamment sur cette question du 1,5 degré. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce chiffre. Il ne faudrait pas dépasser un réchauffement climatique supérieur à 1,5 degré. On l'entend plus souvent aussi 2 degrés, puisque c'est le cap qui a été fixé comme un seuil maximal par l'accord de Paris. Alors pourquoi on parle de 1,5 degré ? Et ça, c'est les travaux du GIEC qui nous permettent de comprendre ça. Donc le GIEC, c'est le Groupement international des experts pour le climat. C'est un groupe de scientifiques qui analyse l'ensemble des travaux qui sont rendus sur ces questions de dérèglement climatique et qui en font des synthèses, ou en tout cas qui en font une compilation, parce que les synthèses, les rapports sont quand même extrêmement copieux, faire état de l'avancement des connaissances sur ces sujets-là. Et donc, ils ont alerté assez vite sur cette question du réchauffement, là, pour le coup, du réchauffement climatique, en disant que c'était un point essentiel à prendre en considération parce que c'est l'élément qui peut nous amener vers ce qu'ils ont appelé des points de bascule. Pourquoi on parle des 1,5 degrés ? C'est que les scientifiques ont estimé qu'en dessous de 1,5 degré, la probabilité de voir arriver des points de bascule était relativement faible. À chaque fois qu'on va gagner 0,1 degré au-dessus de ces 1,5 degrés de réchauffement, on augmente la probabilité d'arriver à des points de bascule. Donc, qu'est-ce que c'est ces points de bascule ? C'est des changements extrêmement importants sur des éléments naturels pour lesquels on ne pourra pas revenir en arrière. C'est par exemple la perte des glaces, la fonte des glaces dans l'Antarctique. C'est par exemple la déforestation dans la forêt amazonienne. Typiquement, la question de la fonte des glaces, on sait très bien qu'on ne reviendra pas en arrière. La glace qui a fondu aujourd'hui ne se reformera pas, quand bien même on réduirait nos gaz à effet de serre, ou qu'on limiterait la température à 1,5. Donc il y a un certain nombre de points de bascule qui pourraient venir déstructurer les fonctionnements climatiques à l'échelle planétaire. Donc l'enjeu est celui-ci. C'est un enjeu de probabilité. C'est un enjeu de se donner le plus de chances possible de ne pas atteindre ces points de non-retour. C'est pas juste ne pas vivre à une température de 1,5 degré plus chaud que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas juste une question de niveau de température pour nous, êtres humains. C'est surtout en quoi cette hausse des températures vient impacter les éléments structurants de nos climats et donc de nos conditions de vie sur Terre. Donc c'est pour ça que le 1,5 degré et plus largement les 2 degrés sont le cap qui sont fixés par l'accord de Paris qui prend appui évidemment sur les travaux du GIEC. Un petit rappel sur les gaz à effet de serre, pourquoi finalement la température augmente aujourd'hui. Donc se rappeler que l'effet de serre en tant que tel est un élément naturel, il n'est pas produit par l'activité humaine. Il est non seulement naturel, mais il est nécessaire. Sans lui, sans cet effet de serre, c'est-à-dire cette protection qui existe autour de la Terre, la température serait 15 à 20 degrés inférieure en moyenne à celle qu'on connaît aujourd'hui. Autrement dit, les conditions de vie, là aussi, seraient extrêmement difficiles, voire rendues impossibles. Donc l'effet de serre a toujours existé autour de la Terre. En tout cas, il a été l'élément déterminant de l'arrivée de la vie sur Terre. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on combat, on ne combat pas l'effet de serre. Ce sur quoi il faudra combattre, c'est les niveaux de concentration de gaz à l'intérieur de cet effet de serre. Pourquoi on a une problématique aujourd'hui ? C'est que si on compare l'effet de serre à une couverture qui vient protéger la Terre et lui assurer un niveau de température moyen et propice au développement de la vie, c'est que par nos activités, on est venu renforcer, rajouter des couvertures autour de la Terre, en développant, en surdéveloppant notre activité et donc les gaz à effet de serre induits par nos activités humaines, on vient rajouter progressivement des couches de température, de couverture, pardon, autour de la Terre, et donc évidemment on rehausse la température. Alors ces gaz, dans ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, ils sont multiples. Le principal, c'est de la vapeur d'eau. C'est pas celui qui va nous inquiéter en premier lieu. C'est plutôt ceux qui sont liés à nos activités humaines. Donc on parle beaucoup du dioxyde de carbone, du CO2, voire même on parle maintenant du carbone tout court. C'est un des gaz à effet de serre, mais il n'est pas le seul. Il y a également le méthane qui est lié essentiellement à l'agriculture, et puis d'autres gaz qui sont liés soit à l'agriculture également, notamment le protoxyde d'azote, ou à la climatisation, on en parlait tout à l'heure, ou à des procédés industriels. Bon, toutes ces activités humaines, par essentiellement le fait de consommer de l'énergie, et particulièrement de l'énergie fossile, vient produire des gaz à effet de serre qui restent enveloppés dans l'enveloppe du gaz à effet, de l'effet de serre, pardon, et donc renforcent la hausse des températures, empêchant les rayons solaires de rejoindre l'espace. Tous ces gaz, ils sont mesurés, je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec la présentation du bilan carbone du CAREN, en équivalent CO2. On additionne l'ensemble de ces gaz qui ont des pouvoirs de réchauffement, qui ont des propriétés un peu différentes, mais pour pouvoir les comptabiliser, on parlera d'équivalent CO2, je le dis maintenant parce qu'on va utiliser cette abréviation après. Voilà, donc bien comprendre que l'effet de serre, c'est un élément nécessaire à la vie sur Terre, mais que par notre activité, nous produisons et surproduisons des gaz à effet de serre, et donc on contribue au réchauffement puis au dérèglement climatique. Vous avez ici un document qui vous montre d'où proviennent justement ces gaz à effet de serre, les différents gaz à effet de serre que j'ai évoqués tout à l'heure. Vous voyez que la première est de loin, en tout cas à l'échelle mondiale, c'est pas le cas en France, mais à l'échelle mondiale, la première cause de production de gaz à effet de serre, c'est la production et la consommation énergétique. C'est à cet endroit-là la question des énergies fossiles. Très clairement, aujourd'hui, et c'est pour ça que ce n'est pas le cas en France, on produit dans un bon nombre de pays de l'énergie, notamment l'énergie électrique, à base de charbon, qui est une énergie fossile qui, lorsqu'elle est utilisée, renvoie du carbone dans l'atmosphère. C'est évidemment aussi le cas du pétrole qu'on utilise notamment pour le reste des activités humaines. Donc premier poste, c'est la question de la production et de la consommation énergétique, essentiellement parce qu'on utilise, et pour l'essentiel, de l'énergie fossile. Je vous rappelle qu'en France, l'énergie étant pour une grande partie produite par le nucléaire, elle est entre guillemets décarbonée. Elle ne produit pas en tant que telle de gaz à effet de serre. Et donc, on a un diagramme qui est assez différent pour la France. Les postes qui suivent, la production industrielle est effectivement très émettrice. Le transport représente à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre. Encore une fois, c'est évidemment l'usage du pétrole et le fait de brûler du pétrole qui vont produire ces gaz à effet de serre. En France, c'est la première cause d'émissions de gaz à effet de serre. On estime que le transport représente à peu près 30% du volume de gaz à effet de serre produit en France. Puis vient l'agriculture, notamment avec les enjeux autour du méthane. Et puis la déforestation. La déforestation ne produit pas en tant que telle des gaz à effet de serre, mais elle empêche de capter un certain nombre de gaz à effet de serre qui pourraient être captés, qui se trouvent dans l'atmosphère et qui pourraient être captés par les arbres présents dans ces forêts. Mais puisqu'on les déforeste de manière assez rapide, on perd là aussi des capacités d'absorption. Ça a été évoqué tout à l'heure, la culture, elle est nulle part là-dedans. Elle n'apparaît pas en tant que telle comme étant une activité structurante des émissions de gaz à effet de serre. Mais elle se retrouve à un bon nombre d'endroits sur la question des bâtiments, sur la question des déchets, évidemment sur la question des transports. Les loisirs, c'est la troisième cause de mobilité en France, et évidemment sur l'agriculture, puisque on nourrit au moins les artistes qu'on accueille et si possible les publics. Donc vous voyez comment la culture peut se trouver articulée avec ces enjeux très forts. Sur ces constats, on n'est évidemment pas resté à simplement faire cette photographie des problématiques qui sont soulevées par nos activités. Il y a un bon nombre de pays qui se sont réunis pour décider de réorienter des politiques publiques et de lutter contre ce dérèglement climatique. Le schéma que vous avez là, c'est encore tiré des travaux du GIEC pour nous expliquer l'effort qu'il nous faudra fournir pour décarboner nos activités humaines, pour réussir à rester sous la barre des 2 degrés, 1,5 degrés. Vous voyez qu'il y a grosso modo 4 scénarios. Le scénario rouge, c'est celui où on ne fait rien. On continue à faire comme on l'a toujours fait. Et alors, la projection, c'est une hausse de température entre 3 et 5 degrés à l'horizon 2100. Donc un seuil qui est évidemment bien plus élevé que celui que je vous ai évoqué de 1,5. Le seul scénario qui nous permet de maintenir un niveau de hausse des températures autour de 2 degrés ou en dessous de 2 degrés, c'est le scénario bleu qui, vous le voyez, correspond à une baisse drastique de l'ordre de 80% de nos niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ça la transformation qu'il nous faut faire pour réussir ce pari de rester en dessous d'une hausse des températures de l'ordre de 2 degrés. On sait d'ores et déjà que la température va continuer à augmenter. On ne parle pas d'une baisse des températures à cet endroit-là. On parle de maintenir un niveau de réchauffement en dessous de 2 degrés pour faire court. Donc l'enjeu, c'est celui-ci, c'est de réussir à réduire de 80% nos niveaux d'émissions d'ici 2050. Quand vous entendez parler de neutralité carbone, c'est cet objectif-là qui est fixé, et c'est l'objectif qui est fixé par l'accord de Paris. 80%, il y a deux manières de le voir. On peut se dire, bon, évidemment, ça représente un chiffre extrêmement important. On peut le ramener à la question du temps. Et du coup, ça ne fait plus qu'une baisse de 5% par an entre maintenant et 2050. 5%, on peut se dire, ça devient déjà un petit peu plus raisonnable, acceptable, compréhensible. Pourtant, 5%, c'est ce qu'on a réussi à faire l'année du Covid. Voilà. Donc ça vous donne un peu le niveau d'effort collectif qu'il va falloir mettre en place pour atteindre cet objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Et ça explique aussi pourquoi tous les secteurs d'activité doivent être concernés par cet objectif essentiel. Voilà pour les présentations des enjeux environnementaux et plus spécifiquement des enjeux liés au dérèglement climatique. J'en arrive au lien avec la culture et je fais j'emprunte ces mots à Bruno Latour qui dit que il n'y a rien qui ne soit à la fois réel, social et narré. Pour moi, c'est une manière d'entrer dans la question de la manière dont le secteur culturel ou les activités culturelles vont être concernées par les enjeux environnementaux. Ça sera quelque chose de réel au sens où, comme je l'ai dit plusieurs fois, il va falloir qu'on change nos manières de faire. Donc ça, c'est très concret. Il va falloir changer des habitudes qu'on avait, des modes de production, voire des modes de diffusion. Et ça sera très, très concret, on pourrait qualifier ça de réel. Ça sera aussi social parce que, comme je le disais en intro, il ne suffira pas de passer à la vaisselle solide, lavable, voire compostable et aux éco-cups, ce qui est une forme de réalité de changement de mode de production. Il faudra aussi réfléchir à nos modèles, voire à ralentir, à relocaliser, à réfléchir à nos dimensionnements de projet, à ralentir. Et tout ça, c'est des questions qui vont renvoyer à des arbitrages, à du collectif et à du social, à des prises de décision collectives. Et puis, elle sera narrée aussi, cette transition écologique. Elle aura besoin de récits, elle aura besoin de venir travailler les représentations culturelles qui nous ont menés là où on est aujourd'hui. Et donc, on aura besoin à la fois des artistes et pour moi aussi des équipements culturels, des structures culturelles qui doivent, à travers cette question de la transition écologique, réaffirmer ou préciser la vision du monde qu'elles souhaitent défendre. Dans quel monde on souhaite proposer à nos habitants, à nos publics, à nos citoyens de vivre. Et en ça, on a une histoire à raconter, une histoire de la transition écologique. Et le secteur culturel a cette force de pouvoir se positionner à cet endroit-là, ce qui n'est pas le cas de tous les secteurs. Donc à la fois réel, social et narré. De manière plus concrète, quelques rappels des enjeux pour le secteur culturel. Le secteur culturel, c'est 2,3% du PIB. Ça représente quelque chose. On sait que c'est à peu près 600 000 emplois. Une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas très bien en fait quel est l'impact du secteur culturel. Pour tout vous dire, on n'a pas de bilan carbone de l'ensemble du secteur culturel. On ne le connaît pas, tout simplement parce que derrière ces 2,3% du PIB, vous le savez, on associe des choux et des carottes. On a aussi bien la production audiovisuelle que les équipes artistiques de spectacles vivants, l'architecture et les auteurs de romans. Donc, très difficile d'additionner ou de faire un produit en croix qui nous permette de dire quel est l'impact carbone du secteur. Néanmoins, on peut identifier trois enjeux qui sont un peu ceux que j'évoquais juste avant. Un premier enjeu de responsabilité, notamment de responsabilité, donc de prendre part à cette transition et notamment dans notre capacité dans le secteur culturel à venir travailler des changements dans des secteurs d'activité qui sont à fort enjeu, ceux de la mobilité, du transport, du bâtiment, de l'alimentation, donc de l'agriculture, qui sont des enjeux que je vous ai présentés tout à l'heure. C'est des éléments qui sont essentiels, déterminants dans nos activités. Donc si le secteur culturel travaille cette transition autour de ces secteurs, il contribue à la transition de ces secteurs. Donc un enjeu de responsabilité. Le deuxième, c'est un enjeu de résilience, en tout cas de comprendre à quel endroit on se situe en forme de dépendance dans le secteur culturel. Il y a au moins deux dépendances assez évidentes. La première, c'est celle aux énergies fossiles. Quand j'ai créé cette diapo, je parlais essentiellement de la mobilité. Aujourd'hui, on voit bien que la dépendance aux énergies fossiles sur la question énergétique de nos bâtiments, elle devient aussi essentielle avec la hausse du coût de l'énergie. Donc on a là une forme de dépendance. On voit bien que le coût de l'énergie vient rendre possible ou non notre activité, soit parce qu'elle rend possible ou non le déplacement des publics, soit parce qu'elle rend possible ou non le fait de chauffer ou climatiser nos espaces, et donc de les laisser ouverts. Il y a sans doute une autre forme de dépendance, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est la question du numérique, qui est parfois posée comme une possibilité, une espèce de porte de sortie, se disant que puisque notamment la mobilité est l'enjeu central, vous le verrez sur la culture, eh bien, en termes d'impact carbone, eh bien, dématérialisons la culture. Il y a quand même eu aussi beaucoup de soutien public pour s'orienter dans cette voie. La période du Covid aussi a contribué à pousser dans cette direction, qui n'est pas forcément celle qu'on soutient, notamment pour maintenir un spectacle vivant. Et puis le dernier point, c'est les changements culturels, ce que j'évoquais juste avant. Faire la transition écologique de notre société, ça va nécessiter de changer un certain nombre de nos rapports au temps, à l'espace, au vivant, essentiel, et puis un certain nombre de représentations sur lesquelles on prend appui pour déterminer ce qui contribue ou ce qui va qualifier d'une forme de réussite, de liberté ou d'abondance. Et ça, c'est des changements qui prendront du temps à travailler. Ça prendra seulement plus d'une génération, mais c'est des sujets qui sont essentiels pour inscrire la transition écologique dans nos modèles de société. Je vais détailler quelques facteurs, les facteurs essentiels d'impact du secteur culturel sur les enjeux écologiques. Le premier, et en fait c'est celui qui structure beaucoup des choses, c'est la question des mobilités. Vous avez là le bilan carbone d'un festival. Alors ce n'est pas le bilan carbone, c'est plutôt une estimation de l'empreinte carbone, tout simplement parce que ce n'est pas fait par le festival en lui-même. Ça a été extrapolé, c'est un document qui est extrait du rapport du Shift Project dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle « Décarbonons la culture », qui a estimé quel était l'impact carbone d'un festival, d'un gros festival, qui se passerait quelque part sur votre territoire, et qui serait quelque chose comme un des plus gros festivals français pendant 3 jours et qui accueille plus de 200 000 personnes par édition. Ça représente, en additionnant tout ça, 16 000 tonnes équivalent CO2. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a un peu tout et rien dit. 16 000, on se dit 16 000 tonnes, ok, ça commence à peser, ça ne semble pas être anodin. Mais ayant peu d'éléments de comparaison, c'est difficile de savoir ce qu'il en est réellement. Ce qui est intéressant, c'est de voir à l'intérieur de ce bilan carbone quels sont les éléments les plus impactants. Et vous voyez que, grosso modo, 60 à 70% du bilan carbone de ce type de manifestation, c'est le transport. D'abord le transport des festivaliers, puis le transport des artistes. Et assez largement devant le transport des festivaliers. Évidemment, on impactera toujours plus en termes d'impact carbone à bouger 200 000 personnes, à faire se mouvoir 200 000 personnes, que même 40 ou 50 équipes artistiques. Hein, il y a évidemment une disproportion de nombre qui fait que le transport festivalier est bien devant le transport des artistes. C'est une donnée qu'on retrouve dans, là je vous présente ce festival-là, mais c'est évidemment une donnée qu'on retrouve dans un bon nombre de bilans carbone, on verra celui tout à l'heure de la salle, si on retrouve ces données-là. Il y a certains secteurs culturels où le taux d'impact carbone lié à la mobilité des publics peut monter jusqu'à 90%, voire 99%. Le premier bilan carbone du musée du Louvre, par exemple, indiquait que l'impact carbone de cet équipement culturel était lié à la mobilité des publics venant de l'international. Donc ce premier point sur la question des transports, c'est cette question de la dépendance au lointain. Si on a un impact aussi fort de la mobilité des festivaliers et des artistes, c'est parce que ces festivaliers et ces artistes viennent de loin et donc ont plus recours à des moyens carbonés. Si on prenait le détail du transport des festivaliers, vous voyez que la partie en haut, là, c'est l'ensemble des festivaliers qui viennent en avion. À eux seuls, ils représentent un tiers du bilan carbone global de la manifestation. On estime que ça représente 3% des publics. Donc 3% des publics viennent en avion sur ce type de manifestation. Et ces 3% de festivaliers représentent à eux seuls 35% de l'impact carbone de la manifestation. Donc ce que nous disent les enjeux de mobilité et d'impact carbone, c'est cette dépendance au lointain. Et donc ça renvoie à la question de la définition des modèles économiques. Pourquoi on a 3% des publics qui viennent en avion ? Parce qu'ils viennent de loin. Et pourquoi ils viennent de loin ? Parce que j'ai une tête d'affiche qui a une date unique en France, et donc en France voire en Europe, et donc ça justifie de venir de très loin pour pouvoir voir l'artiste que je souhaite voir. Okay ? Donc cette question du transport, elle renvoie à cette question de la dépendance au lointain et plus largement à la question de la définition des modèles économiques. Donc ça, c'est le premier point sur les transports. Le deuxième, c'est que, et là vous avez le bilan carbone d'une salle de spectacle qui se trouve en périphérie d'une ville, en tout cas qui est beaucoup plus connectée au transport en commun, et surtout qui a une programmation régulière, donc qui n'a pas forcément une attractivité nationale sur sa saison. Et là, vous voyez que ce qui vient impacter de manière très forte très fort le bilan carbone, c'est le transport des œuvres. Là, pour le coup, on retrouve une forme de disproportion à cet endroit-là, parce que le transport des œuvres, et auquel on pourrait ajouter les équipes artistiques, eh ben, là aussi, on retrouve du transport carboné. C'est-à-dire qu'on va mettre des camions sur la route, hein, très concrètement, pour les scénos et pour la technique. Là où les transports spectateurs vont pouvoir se faire plus facilement par du transport en commun, du transport en proximité, à vélo, à pied, etc. Donc l'impact du transport des publics est très largement amoindri. Donc selon les spécificités des lieux et des projets, évidemment, les impacts ou l'endroit des impacts ne sont pas les mêmes. Sur une salle bien connectée, avec un public plutôt en proximité, la problématique est celle du transport des œuvres. Et puis, ça renvoie aussi à la question de l'emplacement de nos équipements artistiques, nos équipements de diffusion, nos équipements culturels. Là, vous avez le bilan carbone d'une salle type de cinéma en France. Et vous voyez que là aussi, 90% de l'impact est lié à la mobilité des publics, essentiellement parce qu'on a mis nos salles de cinéma en périphérie des centres. Hein. Donc on a poussé à ce que les spectateurs aient recours à leur voiture pour venir sur ce type de lieu. Ici, vous avez le bilan carbone d'un livre vendu en librairie. Je suis désolé, c'est bien les grands écrans, ça permet de voir aussi les fautes de frappe, qui révèle un autre facteur impactant, c'est la question évidemment de la production des œuvres. Ça peut être le cas pour le spectacle vivant, mais c'est beaucoup plus impactant sur cette question du livre. Et vous voyez que là, pour le coup, l'élément essentiel, déterminant, c'est toute la phase de production. Donc essentiellement ici la phase de production du papier et la question de l'impression, sachant qu'on ne produit plus pour l'essentiel de papier pour du tirage de livres en France et que donc nos pattes de papier viennent de l'étranger, au mieux d'Europe, la plupart du temps, enfin un bon nombre d'entre eux d'Asie. Donc là on a un impact très fort sur la question de la production de l'œuvre sur ce type de secteur. Et puis, avant-dernier facteur que j'évoque, c'est la question des achats alimentaires et c'est la question des repas carnés. Vous avez là le bilan carbone d'un festival. Donc, vous voyez qu'on retrouve, c'est toujours le même festival, on retrouve les impacts très forts liés au transport, qui sont les quatre premières colonnes. Et la cinquième, celle qui arrive derrière, c'est la question de l'alimentation et des boissons, qui sont des éléments structurants des modèles économiques, là aussi. Hein. Les boissons dans un festival ou dans une salle de musique actuelle, on sait ce que ça représente. C'est la question du repas carné qui est un enjeu ici essentiel. Donc la question de la végétalisation des repas qui seraient proposés aux artistes et au public, c'est un facteur par 4 de diminution de l'impact carbone. La différence entre une assiette carnée, donc avec de la viande, et une assiette végétalisée, végétarienne ou végétale, c'est un rapport de 1 à 4. Donc l'enjeu, il est pour l'alimentation essentiellement à cet endroit-là de changement de proposition sur l'alimentation. Et le dernier point que j'évoque en termes d'impact, c'est la question du numérique, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui peut être vu à certains endroits comme une forme d'alternatives, de pistes, de sorties sur les enjeux, notamment en réponse à l'enjeu de mobilité que j'évoquais tout à l'heure. 80% du contenu qui est diffusé sur Internet aujourd'hui, on peut estimer que c'est du contenu qui est culturel. Donc la place du secteur culturel dans l'impact du numérique, il est évidemment extrêmement important. Le numérique aujourd'hui, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on est au-dessus, on va rattraper en fait, les niveaux d'émissions liés à l'aviation au niveau mondial. Donc c'est un élément là aussi qui devient extrêmement structurant en termes d'impact et pour lequel le secteur culturel a une part importante de responsabilité, en tout cas de proposition de contenu, à la fois sur la vidéo, sur le streaming, sur le jeu vidéo, sur la musique, et globalement sur les réseaux sociaux, qui sont aussi une forme de culture. J'ai pas le temps de détailler cet enjeu sur le numérique, mais de plus en plus d'études, l'ADEME sort des études maintenant sur la comparaison entre la proposition en ligne ou numérique et la proposition en live ou papier, par exemple, sur le livre. Et les solutions numériques sont, pour la plupart du temps, plus impactantes que les formes, entre guillemets, traditionnelles de propositions artistiques. Donc voilà les facteurs essentiels qui sont résumés ici. Le numérique, l'énergie, climat, chauffage, donc l'enjeu énergétique, l'alimentation et la question des mobilités qui sont les priorités à travailler dans le secteur culturel, bien devant celle des déchets ou de la communication, qui sont en fait des endroits très peu impactants en termes de gaz à effet de serre. Toujours tiré des travaux du CHIFT, vous avez ici une présentation des typologies d'actions qui peuvent être mises en place pour lutter contre cette question du dérèglement climatique. Ils ont identifié 4 typologies d'actions. Des mesures qui sont dites transparentes et positives, ce sont des mesures qu'on peut mettre en place dès demain dans chacune de nos structures sans redéfinir nos projets culturels, sans redéfinir la manière dont on conçoit nos projets. Concrètement, mettre en place du covoiturage ou mettre en place une assiette végétalisée versus une assiette avec de la viande, ça ne change en rien nos projets culturels. On ne change pas le fond de ce qu'on propose. On propose une autre manière de faire, mais on n'est pas en train de redéfinir nos projets à cet endroit-là. Donc là, on a des leviers qui sont extrêmement importants, qui ne sont pas simples à mettre en œuvre. Mettre en place le covoiturage ou même l'assiette végétalisée, ça peut faire l'objet de résistance. Mais on a des mesures qui peuvent être mises en place à l'échelle des structures sans redéfinir les projets, sans nécessité de négociation avec d'autres partenaires, etc. Et puis, vous avez des mesures qui sont dites offensives et défensives, qui, elles, vont nécessiter de re-questionner le projet ou la manière dont je le conçois. Donc notamment la question de la mutualisation des dates de tournée, voire ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question des clauses d'exclusivité qui déterminent ou qui sont déterminants dans les modèles économiques des festivals, par exemple, mettre fin à ces clauses d'exclusivité. Là, on voit bien qu'on est sur des choix, des leviers d'action qui sont beaucoup plus structurants, plus compliqués à mettre en œuvre et qui vont nécessiter un petit peu plus de temps. Donc si je me réfère à ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a un enjeu de réduire de 80%, mais qu'on peut le ramener à une échelle de temps annuelle de l'ordre de 5%, ça veut dire que déjà, en s'occupant des mesures transparentes et positives dans les prochaines années, on fait déjà une partie du job. Et ça, on peut le faire, encore une fois, sans redéfinir nos projets. Ça nous laisse le temps de travailler les mesures qui sont plus impactantes autour des mesures offensives qui visent à réorganiser le secteur et des défensives qui visent à refuser un certain nombre d'opportunités ou de manières de faire qui produisent des impacts environnementaux. Je vais passer rapidement là-dessus. C'est une typologie d'action proposée toujours par le rapport du Shift Project qui vise donc à définir quels seraient les types d'actions, les catégories d'actions qui pourraient être mises en place. C'est des éléments que j'ai déjà évoqués, la relocalisation des activités de production. Ça ne veut pas dire travailler qu'avec des artistes locaux, mais ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure sur le papier, par exemple. Le fait de ralentir la production, de réduire les jauges, de réduire les échelles, de renoncer à certaines opportunités, notamment autour du numérique. Est-ce qu'il faut qu'on s'engage aujourd'hui sur la réalité virtuelle, par exemple? La réponse du chiffre, c'est que non, il faudrait refuser ce type de propositions qui sont fortement carbonées, intégrer les enjeux de mobilité et plus globalement éco-concevoir les œuvres, qu'elles soient, qu'on parle de spectacle vivant ou d'autres formes. Je vais conclure sur la question des politiques publiques. Vous avez là la courbe de la diffusion de l'innovation. La question, c'est de savoir où on en est dans le secteur culturel de l'intégration de ces enjeux environnementaux dans nos pratiques. Cette courbe, elle détermine la manière dont se déploie une innovation, quelle qu'elle soit. Ça peut être une innovation technique, technologique, mais ça peut être aussi un changement de modèle ou de pensée dans une société. Et vous voyez qu'il y a il y a les novateurs, les premiers adoptants, puis on passe à des logiques de majorité. On ne sait pas exactement là où on en est dans le secteur culturel. Je pense qu'on a aujourd'hui dépassé la question des novateurs. Les premiers adoptants ont été acquis, mais vous voyez qu'il y a un abîme entre les premiers adoptants et la majorité précoce. Ce qui va différencier le passage entre ce premier bloc d'innovateurs, on va dire, ou de premiers adoptants et la majorité, c'est que les premiers sont prêts à faire avec ce qu'ils trouvent. Ils sont convaincus de la nécessité d'agir sur un sujet ou de s'engager dans une transformation. Et donc, ils vont bricoler, ils vont trouver les ressources, ils vont voire même créer leurs propres ressources. Typiquement, ce qu'ont fait les festivals en France en créant ces réseaux régionaux, etc., leur propre formation, leur propre outil, ils étaient à cet endroit-là des premiers adoptants. Par contre, la majorité, elle est un peu moins convaincue ou elle veut dédier moins de temps à ces questions-là. Et donc, elle a besoin qu'on l'aide à formaliser les choses. Elle a besoin d'outils clés en main. Elle a besoin de procédures. Elle a besoin de guides. Elle a besoin de formations qu'elle ne va pas elle-même développer. Et pour moi, on en est là aujourd'hui, et ce « là », c'est la responsabilité pour moi de la collectivité, ou des collectivités publiques, ou de la puissance publique. Favoriser ce passage des premiers adoptants à la majorité précoce. C'est-à-dire comment on facilite l'essaimage des pratiques vertueuses dans le secteur culturel en faveur de la transition écologique. Et j'ai identifié trois niveaux d'intervention que les collectivités peuvent mobiliser. Le premier, c'est une modification des modes de production, favoriser ce que j'évoquais tout à l'heure, les mesures transparentes et positives. On va parler essentiellement d'éco-responsabilité. Mettre en place le covoiturage, mettre en place une politique achat responsable, isoler les bâtiments ou avoir des logiques de sobriété d'usage, la mobilité douce, etc. Ces questions-là, ces leviers, on les connaît, sont globalement des réponses techniques. Elles ne sont pas simples à mettre en œuvre, mais on les connaît et elles peuvent être mises en place à l'échelle de structures individuelles. Donc il y a nécessité pour les collectivités de réfléchir à ce qu'elles vont proposer pour que ces outils se mettent en place dans les structures. Comme je le disais tout à l'heure, à cet endroit-là, les acteurs nous font remonter des besoins de temps, des besoins de moyens, mais de moyens financiers, de moyens humains, de guides pour l'action, de méthodes. Donc c'est ça qu'il faut réussir à construire ou à co-construire avec des partenaires locaux, des relais, des agences, des associations, etc. On a un besoin ici d'accompagnement au changement. Le deuxième, il est un peu plus compliqué parce qu'on va travailler la question de la sobriété. Une fois qu'on aura mis en place l'éco-responsabilité, on aura atteint à peu près 20-25%, ça dépend des secteurs, de la réduction des impacts. On n'aura pas fait la balle, on ne sera pas à 80%. Donc il nous faut réfléchir à la relocalisation, au redimensionnement de nos projets, à la manière dont on mutualise des choses, à la manière dont on fait collectivement changer notre système de production et de diffusion. Et à cet endroit-là, ce n'est pas des guides dont on a besoin. Mettre en place de la coopération, ce n'est pas un guide qui va me permettre de mettre en place la coopération. Ça peut m'être utile, mais ce n'est pas ça qui va déterminer ma capacité à mettre en place ce type d'outils. À cet endroit-là, on a besoin de collectifs, on a besoin d'arbitrage, on a besoin de créer des espaces de négociation entre les acteurs. Donc là, les collectivités ont un enjeu à mobiliser un certain nombre d'outils dont elles disposent. Je pense aux agences, là encore, je pense aux COREPS, je pense aux contrats de filière qu'elles ont. Enfin bref, il y a un certain nombre d'endroits où ce collectif est structuré et se travaille. Et c'est à ces endroits qu'il faut investir les enjeux de transition écologique. Et puis, on a un enjeu autour des questions de représentation culturelle dont je parlais tout à l'heure, et de réfléchir à la manière dont la collectivité va rendre possible l'émergence de nouvelles formes, qu'elles soient artistiques ou culturelles, des choses qui, de fait, ne rentrent pas dans les cases, puisqu'en fait, c'est nouveau. Et il nous faut inventer ces espaces-là. Et donc, il y a une vigilance à avoir du côté des collectivités, à être en capacité à soutenir ces nouvelles formes qui vont nous permettre de travailler de nouvelles représentations culturelles. Et les trois leviers qui sont mobilisables par les collectivités ou par la puissance publique de manière générale, ils peuvent être structurés autour de ces trois questions. Levier réglementaire, levier financier, levier organisationnel. Levier réglementaire, je vais faire court parce que c'est un levier qui est peu activable par les collectivités locales en tant que telles, mais il faut avoir conscience que ce levier, il va venir s'imposer de plus en plus aux acteurs culturels. Je cite là la loi Élan, la loi AGEC, le décret tertiaire dont vous avez dû entendre parler qui vise une réduction de 30% des consommations énergétiques dans l'ensemble des lieux du tertiaire, opérateurs culturels compris. C'est une baisse de 30% d'ici 2030. C'est un enjeu extrêmement fort dont les acteurs culturels n'ont pas encore, à mon avis, vraiment pris la dimension. Donc le levier réglementaire va venir s'imposer, se renforcer et donc venir peser sur les projets. Le levier financier, il se définit à deux endroits. On entend beaucoup parler d'éco-conditionnalité. Je ne connais pas la politique de la région sur cette question-là. Mais de plus en plus de collectivités, le ministère y travaille aussi, sont en train de réfléchir à conditionner les subventions au respect de critères environnementaux. On en entend beaucoup parler. En réalité, moi, aujourd'hui, je n'identifie aucune collectivité qui ait réellement mis en œuvre cette éco-conditionnalité parce qu'elle pose un certain nombre de problèmes, notamment en termes d'évaluation et de mesures qui sont compliquées à mettre en œuvre. Le deuxième point sur le levier financier, c'est quelle typologie d'action est-ce qu'il faut financer ? On entend de la part des acteurs que pour mettre en place des actions éco-responsables, vertueuses, ça coûte plus cher et que donc il faudrait venir financer ces actions individuellement pour qu'elles soient rendues possibles. Je pense que dans le contexte actuel de contraintes budgétaires extrêmement fortes, on n'arrivera pas à venir financer individuellement ces surcoûts, si tant est qu'ils existent, les collectivités n'arriveront pas à financer ça. Ma position, c'est que ce qui est intéressant là, c'est de venir travailler du collectif. En quoi les collectivités vont pouvoir venir mettre en place des choses qu'individuellement, les acteurs ne peuvent pas faire. Des politiques d'accompagnement, de diagnostic, d'aide sur de la prise de décision sur de l'accompagnement en changement sont des choses qui sont essentielles et qui doivent être financées par la collectivité. Et dernier levier, je finis là-dessus, et je l'ai déjà évoqué, c'est la question de la mobilisation de l'ensemble des leviers organisationnels dont dispose de fait la collectivité, ou en tout cas avec lesquels ils sont en interaction. Soit en interne, il y aura besoin de mobiliser d'autres services des collectivités que nos interlocuteurs du service culturel. Il va falloir qu'on aille parler avec les gens qui s'occupent de la mobilité et des transports, par exemple. Ben là, il y a bien un enjeu de nos interlocuteurs des services culturels à travailler cette question de la transversalité en interne. Et puis, plus globalement, d'une mobilisation des associations, des centres ressources, des agences, des filières, etc., ce dont je parlais tout à l'heure, pour soutenir, engager et déployer la transition écologique dans le secteur. Voilà les trois typologies d'actions que j'ai identifiées. Je vais m'arrêter là, j'espère que je n'ai pas trop dépassé.
Merci Cyril, c'était dense. Est-ce que certains d'entre vous veulent réagir, peut-être ont besoin d'éclaircissement aussi sur certains points ?
On est loin du one-man show. Hein.
Ouais, il en faut un pour la première question. Donc moi, je suis élu, je venais à la journée un peu pour que les acteurs culturels soient davantage à la communication sur les enjeux. Donc bien sûr, il y a des enjeux énergétiques, c'est très bien détaillé. Disons que pour notre territoire, nous développer des cours de musique bretonne où il soit 30 au lieu de 20 à venir au cours et donc plus de déplacements, passer de 20 à 30 est plutôt un succès. Et rester à 20 parce qu'il ne faut pas trop consommer d'énergie, c'est un peu réducteur. Hein, mais voilà. Et je voyais... plus la journée, mais peut-être que je me trompe, sur les enjeux des acteurs culturels pour communiquer sur les enjeux climatiques. Quoi. comment dire, c'est un peu comme les chanteurs, la musique, on ne voit pas beaucoup, ou peut-être j'entends mal, des thématiques dans les chansons sur les enjeux climatiques. Pareil, les philosophes aussi, je trouve qu'ils sont assez silencieux là-dessus par rapport aux menaces, quoi. Et juste pour ne pas faire trop long, si les gens viennent aux vieilles charrues à vélo ou en voiture électrique, elles-mêmes rechargées par des éoliennes ou du solaire, et voilà, c'est peut-être la solution, quoi, plutôt que de chercher à réduire le succès culturel, en fait. Et dernier petit exemple, chez nous, on cherche à favoriser des dumistes dans toutes les écoles du territoire. Oui, il ne faut pas qu'ils restent à la maison, les dumistes. Voilà.
Alors, deux niveaux de réponse. Sur votre premier point, effectivement, on est aujourd'hui sur une lecture de... Globalement, notre politique culturelle, elle est construite sur une logique de développement. Développement est souvent un développement de l'offre culturelle. C'est un des points qu'il faudra mettre en débat. Est-ce que c'est ce modèle-là qui est pertinent dans un modèle de tension et de crise environnementale ? Après, mon propos, il n'était pas de renvoyer à une baisse stricte de l'offre culturelle. Je ne serais pas sur des logiques d'accompagnement si je faisais cette proposition. Elle est plutôt de l'articuler à la fois les enjeux de changement de mode de mobilité dont vous parlez, et en même temps des enjeux de sobriété, de ne pas aller dans le toujours plus, parce que ce modèle-là, il est plus tenable dans un monde qui est fini, et dont, qui était déjà fini avant, mais dont on ne tenait pas compte, voilà, de cette finitude. Donc il y a seulement une articulation à avoir entre la question de l'éco-responsabilité de nos modes d'action et de la sobriété des propositions qu'on va défendre. Voilà, il y a quelque chose à construire à ces deux endroits-là. Il y a aussi la question de... Et c'est un point que je n'évoque pas dans cette présentation, mais qui est en filigrane de tous les enjeux de transition écologique, c'est la question de l'équité des efforts à faire. Le point que vous évoquez, vous parlez d'un cours de 20 personnes qui vont se déplacer à une échelle locale, en toute proximité, avec un impact en fait relativement faible. Oui, il y a des efforts, on peut penser qu'on a des choses à travailler à cet endroit-là, mais c'est disproportionné par rapport aux 16 000 tonnes d'équivalent CO2 que je vous ai présenté tout à l'heure sur un festival. Donc il y a cette question de, dans la transition écologique, il y a toujours cette question de la justice sociale et de la juste répartition des efforts à fournir. Voilà. Donc il y a d'autres secteurs culturels ou d'autres opérateurs culturels qui sont bien plus impactants que l'exemple que vous prenez là, et sans doute que les efforts à aller chercher en premier lieu sont à cet endroit-là. Et le deuxième point que vous évoquiez, c'était sur la place des artistes dans tout ça. C'est un point que j'évoque quand même en disant que oui, il y a une part de narration, il y a une part de... on a besoin d'aller chercher cette parole sensible au-delà des discours des scientifiques, du GIEC. Le GIEC rend des rapports depuis des années. Ça n'a pas transformé notre société, fondamentalement. Donc on a là aussi besoin de l'articuler avec des propos d'artistes ou d'équipements qui vont venir travailler cette question de la manière dont ça me touche dans ma vie personnelle, dans ma sensibilité. Donc du récit plus que du discours scientifique. Voilà. Ouais, il y a une question là-bas.
Oui, bonjour. Fabienne Rebière, chargée de mission culture pour le département. Je pense aussi que en tant que collectivité, enfin technicienne d'une collectivité, on a aussi des... Je ne vais pas parler de responsabilité, mais enfin, en tout cas des engagements quand on regarde les projets culturels à les amener vers ces questionnements-là et accepter aussi ce qu'engagent ces questionnements, enfin du moins les effets. Les effets, des fois, c'est un peu moins de... de monde, un peu moins de diversité, un peu moins d'international, un peu moins de visibilité. Et donc, il faut que les collectivités aussi, dans cette perspective-là, soient prêtes à accepter que cette décroissance ou cette rationalisation amène des effets un peu moins pour la collectivité. Donc, voilà, je trouve aussi que notre rôle, il est important quand on est sur des enjeux, par exemple, de convention, d'accompagnement financier. Nos aides, par exemple, ne sont pas aujourd'hui éco-conditionnalisées. Mais je ne sais pas ce que ça voudrait dire concrètement. Et nous aussi, en tant que collectivité, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ? Est-ce que c'est perdre ? Est-ce que c'est renoncer ? Est-ce que c'est voir différemment ? Enfin, voilà, on a engagé pendant des années la question, par exemple, de l'international, de la diversité, d'aller chercher loin, quelque chose de rare, par exemple, de faire le plus grand nombre. Donc, on est complètement, parfois, à l'encontre de ces préconisations. Voilà, donc ça pose aussi, nous, la question de nos politiques, comment on les amène, et voilà, notre rôle dans ce jeu-là.
Oui, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est globalement, depuis 50 ans, dans une politique culturelle qui est une politique de développement de l'offre, et j'évoquais des représentations culturelles autour de la question de la réussite, elles valent aussi dans notre écosystème culturel. L'artiste qui réussit, c'est l'artiste qui s'exporte. Ce n'est pas celui qui garde une proximité et qui va travailler en local. Donc il y a aussi des questions de représentation, voire de choix politiques, hein, qui sous-tendent tout ça. Je suis d'accord avec vous que les endroits de conventionnement sont des endroits extrêmement intéressants à travailler sur ces questions-là. Je l'évoque normalement dans ma partie levier réglementaire, outil conventionnel. C'est l'outil des collectivités, hein, concrètement, pour créer, entre guillemets, du réglementaire, en tout cas du cadre d'intervention. Un enjeu, à mon avis, extrêmement important, c'est de travailler les critères d'évaluation de nos conventions d'objectifs au regard de ces enjeux de transition écologique. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les enjeux écologiques trouvent de plus en plus de place dans les conventions. En tête des conventions, dans les considérants, on met un bel objectif en disant qu'il faut tenir compte de la crise environnementale et prendre part à notre responsabilité en tant qu'acteur culturel. Mais on regarde la grille d'évaluation de ces conventions et elles sont toujours inscrites dans le toujours plus. Donc vous allez devoir, en tant qu'opérateur culturel, respecter votre responsabilité environnementale en faisant plus de dates, plus de public, plus de diversité, plus de lieux, plus de médiation, Non, c'est pas possible. On va mettre les directeurs de lieux et les équipes en tension, voire en schizophrénie. Donc il y a un enjeu vraiment très fort, à mon avis, à redéfinir, d'un point de vue très technique, les critères d'évaluation des conventions pour commencer à changer un peu ce paradigme. Et ça, pour le coup, il y a un certain nombre de collectivités qui commencent à expérimenter des choses intéressantes à cet endroit-là. Et votre deuxième point était sur... je l'ai oublié, du coup, je me suis perdu dans... Voilà, bon, c'était sur cette question de la définition des politiques culturelles.
Est-ce qu'il y a une dernière question ?
Oui, bonjour. Moi, je voulais intervenir sur des chiffres qui m'ont vraiment interpellé, notamment les 3% de festivaliers qui représentaient 34% de l'impact carbone d'un festival, et puis les 60% du streaming. Et je m'interroge en fait sur... parce que sur ces deux points, c'est assez accessible. C'est-à-dire le streaming, on ne se rend pas compte, on l'utilise, mais c'est tellement simple, ça fait partie de notre abonnement. On clique, on a, point. Mais on n'est pas du tout sensibilisé là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Peut-être qu'il faudrait que ça soit moins accessible pour qu'on aille chercher autre chose, téléchargement, etc. Ou qu'on ne soit pas dans la profusion, dans les tout de suite téléchargé. Et pour la question de l'avion, c'est tellement simple, l'avion. Souvent, en se débrouillant bien, ça coûte beaucoup moins cher que de prendre le train. Et puis c'est tellement plus facile, ça va tellement plus vite. Donc peut-être qu'en fait, il faut s'intéresser aussi à l'accessibilité de ces producteurs de GES.
Voilà. Oui, complètement. Et Ce que vous évoquez, les constats que vous évoquez, c'est le monde dans lequel on vit, c'est le monde dont on hérite finalement, quoi. Effectivement, c'est un monde dans lequel il coûte moins cher de prendre l'avion que pour un certain nombre de distances que de prendre le train. Voilà. Donc ça fait partie des transformations un peu sociétales qu'il va falloir engager. Il y a une stratégie nationale bas carbone, donc une forme de déclinaison, on va dire, de l'engagement accord de Paris au niveau gouvernemental. Et donc ça, typiquement la question de la mobilité, c'est un des axes de la stratégie nationale bas carbone. Voilà. Donc il y a des choses qui vont aussi, évidemment, venir impacter ces secteurs-là et dont on bénéficiera. Si demain l'offre de train se développe, les acteurs culturels bénéficieront de ce développement d'opportunités de transport décarboné. Voilà. Donc, mais il va falloir jouer des deux côtés. Parce que derrière la question, par exemple, du train ou de l'avion, on se joue à la fois des enjeux financiers, mais aussi des enjeux de temps, de transport. Et donc ça impacte un certain nombre de considérations professionnelles, de comment on paye ces temps de trajet, est-ce que c'est un facteur de ralentissement. C'est aussi ces questions-là qui se jouent derrière. Voilà. Et peut-être si je voulais, le terme, juste pour conclure, le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, vous avez parlé de ralentissement, de renoncement, etc. C'était la fin de votre intervention. On a fait une table ronde, un forum lors des BIS, il y a quelques semaines, sur cette question du renoncement. Et ce qui est ressorti de manière très forte de la part des acteurs, il y avait des acteurs, des équipes artistiques, des lieux, des collectivités. C'était deux choses. C'était un, le bien-être au travail. J'évoquais tout à l'heure une crise sectorielle. J'ai parlé de la problématique des publics, j'ai parlé de la problématique des coûts, des problématiques de diffusion. On a aussi une problématique de recrutement dans notre secteur culturel, de plus en plus forte. On trouve difficilement aujourd'hui sur un certain nombre de métiers d'administrateurs, mais aussi dans la technique, on a une difficulté de recrutement. Et donc cet enjeu de proposer un mieux-être au travail va être un enjeu extrêmement important dans les années à venir, je pense, du secteur culturel. Et le ralentissement y contribue. Et la deuxième chose qui est ressortie, c'est que gagner du temps, c'est gagner en capacité ou en qualité relationnelle. Et donc, c'est gagner en capacité à faire notre travail, tout simplement. Parce que quand on fait, si on travaille dans la culture, c'est avant tout, je pense, pour travailler cette question de la qualité relationnelle. Donc, le renoncement, il peut être vu, comme vous l'évoquiez, comme un risque de, on va faire moins, oui, mais peut-être qu'à certains endroits, on va gagner aussi en qualité de manière de faire, en qualité, ce qu'Alexandre Monin appelle en sobriété intensive. On va faire moins, mais on va faire mieux. Voilà, il y a aussi cet enjeu-là, à la fois dans la proposition culturelle, mais dans la manière de faire nos métiers.
Ouais. Merci. Juste une petite remarque sur ce que vous avez évoqué sur le numérique. Vous avez balayé ça un peu vite comme
sur la question
du numérique, qui est effectivement un facteur de pollution essentiel aujourd'hui avec les big data, etc. Donc les chiffres sont impressionnants, mais il me semble que vous avez balayé un peu vite comme un axe où il s'agirait de dématérialiser la culture, mais on est tous ici des grands consommateurs des systèmes numériques, et ça me fait penser à un forum de l'agence Europe Créative, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui existe bientôt, sur écologie et numérique dans quelques semaines, et ce serait intéressant de passer l'info pour envoyer le lien, parce que à mon sens c'est un gros facteur un gros besoin de formation et de repositionnement de sa manière de travailler, et en tant qu'artiste et en tant que structure, sur l'écologisation de nos pratiques numériques, où on peut, et il y a des gros efforts. Moi je suis sur le territoire de Rosbordin. Je suis artiste et je représente aussi un nouveau lieu de résidence, Kermini, qui travaille sur la question de l'écologie dans la production et des artistes, en inventant un nouveau modèle de résidence précisément. Et autour de ce secteur, enfin de la communauté de communes, se profile un festival culturel des low-tech pour inviter les acteurs et les artistes à réfléchir à des nouvelles formes, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Et voilà, je pense que c'est pas du tout anodin et qu'il s'agit de reformuler des compétences et des appétences sur nos outils, en prendre soin, leur durabilité, leur réparabilité, etc. Et que sur la question des clouds, des serveurs autonomes, on pourrait tout à fait ne plus passer par la Silicon Valley pour s'envoyer même des mails d'un bureau à l'autre. On en est au bord, mais c'est un besoin de formation et de repositionnement des outils. Plutôt que... j'avais l'impression que vous parliez d'un axe comme si la question du numérique en culture allait nous défaire du réel et des spectacles et du vivant. Mais je pense que ça peut repositionner une manière de concevoir nos outils de diffusion, d'éclairage, de vidéo, etc. Et aussi de lien entre nous et au contraire d'aller un peu plus loin qu'un petit... un petit pad de covoiturage pour se retrouver, que c'est une vraie grosse question. Voilà.
Ok, oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Pour moi, ce que vous évoquez, ça renvoie à deux choses là aussi. C'est un, la manière dont on utilise cet outil, donc toute la question du numérique responsable, des alternatives, des logiciels libres, du low-tech. Mais plus globalement, c'est la question de la finalité. C'est d'à un moment donné avoir une. Prendre le temps de la réflexion de à quoi ça sert, quoi. Qu'est-ce qu'on veut confier à cet outil-là sans forcément s'y jeter à corps perdu, voire soutenir à tout craint, avec des financements publics extrêmement importants, le développement de la numérisation des secteurs culturels. Voilà. C'est la question de la finalité de cet outil qui peut être pertinent à certains endroits.